Alors, moi, je vous le dis sincèrement, ce qu'on vit en ce moment est totalement fou. Parfois, j'ai même pas les mots pour expliquer. Wall Street vient de boucler sa cinquième semaine de hausse consécutive et on n'avait plus vu ça depuis mai 2020. Mai 2020, l'époque où on faisait du yoga en ligne et où on applaudissait aux fenêtres et on pensait que les politiques nous voulaient vraiment du bien. Eh bien voilà, spirituellement, on y est retourné. Sauf qu'à l'époque, on montait parce que les gouvernements de la planète entière s'étaient mis d'accord pour ouvrir les vannes du portefeuille en grand et qu'on apprenait à faire du pain à la maison. Aujourd'hui, on monte. Pourquoi déjà? Ah oui, parce qu'on en est à la 10e semaine de guerre au Moyen-Orient, le baril est à 100 balles, l'Iran cherche ses missiles juste au cas où, et tout le monde sourit avec la sérénité d'un investisseur convaincu que les arbres, bah finalement, ils pourraient bien monter au ciel. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet, et nous sommes le 4 mai 2026. Aujourd'hui, on va parler du plus grand paradoxe économique du moment, et surtout, surtout, on va parler du vrai détonateur que personne ne voit venir.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Donc on est lundi et tout a l'air plutôt calme. On regarde les futurs, ils montent un poil, ambiance étonnamment décontractée. La seule question qui agite finalement les salles de marché ce matin, c'est quand est-ce que le S&P 500 va taper les 10 000 points? Pas est-ce qu'il va corriger, pas est-ce que les valorisations sont un peu trop tendues? Non, juste quand? La semaine va pourtant être chargée, pas tout de suite parce que le Japon est fermé aujourd'hui pour Golden Week et Londres est aussi fermé, donc liquidité réduite, volume ridicule, l'œil du cyclone. C'est ce moment de calme étrange où on fait l'inventaire des dégâts juste avant la prochaine vague. Mais à partir de mardi, ça repart. Les JOLTS, mardi, pour voir si le marché de l'emploi tient encore le coup. ADP, mercredi, l'emploi privé. Et le grand spectacle du BLS vendredi avec les chiffres de l'emploi du mois d'avril pour conclure la semaine. Trois occasions de se faire peur pour le prix d'une. Et puis, on a aussi du gros calibre côté trimestriel. Palantir aujourd'hui, AMD demain, Arm, Novo Nordisk, Disney, McDo. Tous dans la même semaine, mais on aura le temps d'en reparler dans les prochains jours. Aujourd'hui, on a d'autres chats à fouetter. Oui, parce que le vrai feuilleton du week-end, c'est encore et toujours le pétrole. Et pour une fois, tenez-vous bien, c'est même pas à cause de Trump. Enfin, pas au début en tous les cas. Oui, parce que l'OPEP+ est donc réuni dimanche, première réunion sans les Émirats Arabes Unis. Vous connaissez cette espèce d'ambiance où vous avez un groupe WhatsApp où semaine après semaine, les membres quittent le groupe un par un, en silence, sans rien dire. À ce rythme-là, dans 2 mois, l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite toute seule en train de se parler à elle-même dans le miroir et à se demander qui est la plus belle. Bref, le cartel a accouché dans la douleur d'une augmentation de production de 188 000 barils par jour pour le mois de juin, soit moins que les 206 000 de mai. Donc ils annoncent qu'ils augmentent la production en l'augmentant moins que ce qu'ils l'augmentaient avant. Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus fort, c'est la politique de marketing de l'OPEP. Et puis, entre vous et moi, on nous parle de 188 000 barils par jour, alors qu'il nous en manque 20 millions qui ne passent pas par Hormuz. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je me suis levé ce matin. Ils appellent ça adopter une approche prudente avec une flexibilité totale. Ça, c'est une formule sortie tout droit de ChatGPT à qui on aurait demandé de pondre un communiqué corporate en restant le plus vite possible. Approche prudente avec flexibilité totale. Mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire en fait? C'est l'équivalent linguistique d'une boisson light, zéro calories, zéro information, zéro engagement. Résultat des courses sur les marchés, bah, quasi rien. Le WTI est toujours à 102$ ce matin. Et Trump a posté entre la communication de l'OPEP et l'ouverture des futurs. L'Iran a répondu, donc l'effet OPEP, on l'a perdu un petit peu dans le bruit ambiant. Il faut quand même bien le reconnaître. Ceci dit, très tôt ce matin, on a vu le WTI passer brièvement sous les 100$ et tout le monde a applaudi en disant, ouf, bouffée d'air frais, on respire, c'est absolument génial. Alors qu'il y a 6 mois, on était à 55$. 55. Aujourd'hui, on est à 102 et on trouve ça merveilleux. On en est arrivé à un point où un baril qui, à n'importe quelle autre époque, aurait déclenché une catastrophe nationale, est aujourd'hui présenté comme une bouffée d'air frais. Et pendant ce temps, à la pompe, l'Américain moyen envisage le suicide à chaque plein d'essence. Une essence qui coûte 4,45$ le gallon. Une hausse de 40 cents en une semaine aux États-Unis. Le diesel est à 5,62, record battu. Les Américains payent 152 millions de dollars de plus en frais d'essence par jour, de plus qu'il y a une semaine. Et 566 millions de plus par jour qu'il y a 9 semaines par jour. Je vous laisse faire la multiplication sur le mois et faire la fonction f de x via le taux d'inflation du mois prochain. Mais le plus dur à vivre pour eux, sincèrement, je crois que c'est de voir les conducteurs Tesla qui font la fête devant les stations-service en buvant des smoothies au chou kale mélangés à du kombucha. Ça doit faire mal. Donc, notre orateur préféré, revenons à lui, notre orateur préféré, Donald Trump, a encore une fois parlé. Et encore une fois, juste avant l'ouverture des futurs sur le pétrole, le timing était encore une fois parfait. Il a donc remis son projet Freedom sur la table et cette fois, on apprend que les Américains vont escorter les navires des pays neutres à travers le détroit d'Ormuz à partir de lundi matin, heure du Moyen-Orient, c'est-à-dire grosso modo maintenant. Il appelle ça une opération humanitaire, et entre guillemets l'opération humanitaire, hein, parce que croyez-moi, les guillemets sont hyper importants. Oui, parce qu'il a ajouté que toute interférence devra être traitée avec force. Donc pour résumer, c'est humanitaire, mais avec des missiles, juste au cas où l'humanité ne suivrait pas la procédure. C'est de l'aide humanitaire à la manière Tomahawk, c'est Médecins sans frontières en mode porte-avions. Évidemment, les Iraniens ont immédiatement répondu que toute intervention américaine dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation flagrante du cessez-le-feu. Donc, on a un cessez-le-feu, qu'on n'est pas vraiment un, qui est soutenu par un plan de paix iranien que Trump trouve pas assez bon, pendant que Scott Bessent explique qu'on est en train de faire suffoquer le pays. Je parle de l'Iran, hein. Suffoquer. Le mot est assez joli pour de l'humanitaire, hein. Ça sent l'humanisme à plein nez. Suffoquer, parce que là, on parle quand même de 90 millions d'habitants qui suffoqueraient. Mais bon, du côté de la Maison-Blanche, on appelle ça de la diplomatie. Donc, nous voilà. 10e semaine de guerre, Détroit toujours fermé comme un magasin un dimanche en Suisse, Trump qui joue les capitaines ad hoc avec son porte-avions, les Iraniens qui chargent les missiles qui leur restent juste au cas où, l'OPEP qui se déchire en interne, le baril qui flirte avec les 100 dollars depuis des semaines, et les marchés, eh ben les marchés, eux, sont au plus haut de tous les temps. Aux États-Unis en tous les cas. Et c'est là qu'on rentre dans le grand mystère du moment. Le grand mystère, c'est le truc qui interroge tous les économistes du monde. En tout cas, les économistes objectifs, hein. Ce qui reste le paradoxe qui fait que même les permabères, ces types qui vous prédisent la fin du monde depuis 2015, commencent à douter de leur propre existence. Parce que, regardez simplement le tableau. Pétrole à 100 balles, taux à 4,4%, inflation qui colle au plafond, guerre au Moyen-Orient qui rentre dans son troisième mois, la Fed qui ne baisse pas les taux, et rien, rien. Pas de récession, pas de craquement, juste une croissance qui avance gentiment, gentiment, mais sûrement. Alors prenons simplement les chiffres. Le marché de l'emploi, il tient, la consommation, elle tient, les boîtes investissent, surtout dans l'IA, parce qu'évidemment, en 2026, si vous investissez pas dans l'IA, vous êtes considéré comme un has-been, un type qui danse du Claude François dans un concert de David Guetta. Le PIB américain progresse, lentement, mais sûrement, les licenciements restent contenus. Sur le papier, le tableau est presque idyllique. Sauf que, quand vous ouvrez le capot de cette magnifique mécanique, eh bien, vous découvrez qu'elle tourne sur 3,5 cylindres. Et les 3,5 cylindres en question, ils s'appellent les riches, les très riches et les très 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 riches. Alors, il faut quand même appeler un chat, la résilience américaine actuelle, c'est essentiellement l'effet richesse en mode stéroïde. Les marchés montent, les portefeuilles gonflent, les ménages aisés prennent leurs bénéfices boursiers, et les claques. Et tout ce petit monde maintient le PIB américain à flot. La théorie est connue depuis Keynes, vérifiée 1000 fois. Quand vous voyez votre patrimoine augmenter de 30%, vous changez la cuisine, vous prenez l'option VIP au concert, vous offrez un séjour aux Maldives à toute la famille. Et en ce moment particulier, vous vendez la Range Rover SVR pour acheter une voiture électrique. N'importe quelle voiture électrique. C'est l'effet Greta meets Wall Street. Et pendant ce temps, en bas de l'échelle, c'est une autre histoire. Hein. L'autre moitié de l'Amérique, celle qui n'a pas de portefeuille chez Robinhood, celle qui paye son plein d'essence à 4,45 le gallon, celle qui regarde le ticket de caisse de Walmart en se disant « Il y a un truc qui cloche quand même !» Eh bien, cette moitié-là, elle galère. L'épargne post-Covid s'est évaporée comme une promesse de campagne électorale, les salaires ralentissent massivement et le pouvoir d'achat se fait grignoter façon castor un dimanche après-midi. C'est ce qu'on appelle pudiquement l'économie en K. Les uns montent et les autres descendent. Et statistiquement, on fait semblant que tout va bien, parce que la moyenne, elle reste à peu près stable. C'est comme la statistique du gars qui a la tête dans le four et les pieds dans le congélateur. En moyenne, il est confortable. Aujourd'hui, on appelle ça consommation résiliente. Le marketing a beaucoup progressé, l'économie un tout petit peu moins. Mais le truc qui fascine vraiment, vraiment, c'est que ce déséquilibre, il tient. Il tient depuis vachement longtemps. Tous les économistes annonçaient la récession pour Q3 2024 et on attend toujours. La récession, c'est devenu une espèce de prophétie auto-différée. Plus on l'annonce, plus elle recule. Un peu comme si l'économie américaine s'amusait à lire les rapports des analystes pour faire exactement le contraire par pur esprit de contradiction. Et le moteur de tout ça, vous l'avez compris, c'est l'IA, bien sûr. C'est elle qui justifie les valorisations, c'est elle qui pousse les capex des grosses entreprises, c'est elle qui maintient l'optimisme structurel. Il faudrait être fou pour aller contre la tendance. Mais le jour où ça va coincer, et on a envie de dire que ça finira par arriver un jour, parce que les arbres ne montent jamais au ciel, le jour où ça craquera, c'est tout l'édifice qui partira avec l'eau du bain. En attendant, on profite du spectacle. Le pays est de plus en plus divisé, financièrement, économiquement, politiquement. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Comme d'habitude, c'est la blague du gars qui tombe du 50e étage et quand il passe devant le 25e, il dit « Bah, jusque-là, ça va. » En effet, jusque-là, ça va. Et puis maintenant, on arrive au plat de résistance. Le Japon, ce pays merveilleux où les cerisiers sont en fleurs toute l'année et où la banque centrale a passé 30 ans à essayer de faire renaître l'inflation. Eh bien, figurez-vous que cette même banque centrale vient de claquer environ 35 milliards de dollars la semaine dernière pour empêcher le yen de finir à la casse. Jeudi dernier, le yen tape ses 160 contre dollars. Tokyo se dit « Ok, ça suffit, on arrête le massacre ». Ils sortent la sulfateuse à billets. Un jeudi, en pleine semaine de la Golden Week, c'est-à-dire au moment où il n'y a personne au bureau, ils rachètent du yen à tour de bras et hop, le yen rebondit de 2,4% en une journée. Sauf que... Et c'est là que ça devient drôle. Pendant que les Japonais essayent héroïquement de tenir leur monnaie à bout de bras, le pétrole, lui, se prend pour une fusée à cause de la petite sauterie en cours entre les États-Unis et l'Iran. Le Brent a donc flirté avec les 125 dollars la semaine dernière, et là, attention, c'est le grand cercle vicieux. Le Japon importe 90% de son pétrole, et il le paye en dollars. Oui, oui, les mêmes dollars qu'ils sont en train de vendre pour soutenir leur monnaie. Vous suivez ? Donc chaque dollar plus cher ajoute une louche d'inflation dans la marmite japonaise. L'inflation japonaise est à 1,8%, dans n'importe quel autre pays, on appellerait ça un mardi tranquille, mais au Japon, 1,8% d'inflation, c'est l'équivalent macroéconomique d'une éruption volcanique. Les analystes expliquent gentiment que cette intervention sur le yen, bah c'est un pansement sur une plaie qui aurait besoin de points de suture. Traduction pour le commun des mortels, ça sert strictement à rien si on ne monte pas les taux. Mais Takaichi, la nouvelle première ministre, elle, ne veut surtout pas les monter, parce qu'elle a un programme fiscal aussi serré qu'un slip de bain. Et la BOJ ne s'engage sur rien. On dirait un politicien suisse. Pour couronner le tout, Tokyo envisage maintenant d'aller intervenir sur les marchés à terme du pétrole, sur les futurs pétroliers. Le Japon, deuxième plus grand consommateur d'or noir d'Asie, va essayer de manipuler le prix du pétrole mondial. On se réjouit déjà de voir comment ça va se passer. En attendant, le 10 ans japonais est à nouveau autour des 2,5%. Pour les jeunes parmi vous, je précise, on n'avait plus vu ce genre de niveau depuis l'époque où Bill Clinton expliquait à la télé qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec cette femme. C'est très très vieux. On se souvient ni de la femme en question, ni de qui peut bien être ce Bill Clinton. Laissez-moi maintenant vous rappeler juste trois trucs. Tout d'abord, en 1, le Japon est le plus gros créancier des États-Unis devant la Chine. C'est le Japon qui finance une bonne partie de la dette américaine. En 2, son secteur financier est gavé d'obligations japonaises jusqu'aux yeux. Banques, assurances, fonds de pension, tout le monde en a. Et en 3, quand le 10 ans japonais monte sérieusement, les capitaux japonais qui sont allés chercher du rendement aux quatre coins du monde, ces capitaux-là pourraient, je dis bien pourraient, commencer à rentrer à la maison. C'est ce qu'on appelle en jargon de salle des marchés « l'undoing du carry trade ». Et c'est précisément ça qui avait déclenché le mini crash d'août 2024. Sauf qu'à l'époque, le 10 ans japonais était à 1%. Aujourd'hui, on est à 2,5. Faites le calcul vous-même. Je ne sais pas s'il faut avoir peur, mais je me pose quand même quelques petites questions. Nous avons donc un président américain qui transforme une zone de guerre en croisière humanitaire armée jusqu'aux dents, avec son projet Freedom. Nous avons un OPEP qui se désintègre par les bords, des Iraniens qui menacent de tout faire péter si Trump vient nager dans leurs eaux à eux, un Bessène qui parle d'asphyxier un pays, et de l'autre côté, une économie américaine qui refuse obstinément de plier malgré tous les signaux d'alerte, portée à bout de bras par le top 10 de la population et par un narratif IA qui tient toujours le coup, pour l'instant. Et au milieu de tout ça, un Japon qui crame ses réserves pour un résultat qui durera aussi longtemps qu'un printemps en Suisse, c'est-à-dire pas longtemps du tout. Et puis, ce 10 ans japonais à 2,5% dont littéralement personne ne parle, alors que c'est peut-être, et je dis bien peut-être, la mèche du prochain craquement. Ce matin, le Japon est donc fermé, Londres est fermé, les volumes vont être beaucoup plus minces. Statistiquement, ce devrait être un lundi un peu plus calme. Disons que c'est l'œil du cyclone, le moment où c'est un peu trop calme. Parce que pendant que Trump joue au Capitaine Haddock dans le détroit d'Ormuz, que l'économie américaine fait du surplace en faisant croire qu'elle court, et que le yen survit sous oxygène, le vrai détonateur du prochain craquement est peut-être en train de se charger silencieusement à 9000 km d'ici. Et personne, je dis bien personne, ou presque, n'en parle. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, abonnement et surtout, partagez-la à un copain qui pense que tout va bien. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, soyez forts. Et je vous rappelle que cette semaine, c'est une grosse semaine. En tout cas, pour la chaîne Swissquote en français, parce qu'on va passer les 100 000 followers. Je dirais d'ici, allez, demain soir. Mais ça, on en reparle bientôt. Allez, à demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.